Beaucoup de ceux qui interprètent ce texte de Saint Matthieu, qui nous raconte la transfiguration de Jésus, pensent qu'il s'agissait d'une grâce qu'il voulait faire aux disciples pour les encourager à résister au moment venu aux tentations qu'ils pourraient avoir en voyant Jésus arrêté, torturé, mis en croix, tué. Comme si Jésus voulait anticiper ce moment pour donner une force spéciale à ses apôtres. C'est sûr, c'est vrai. Ils ont reçu sûrement cette grâce, ce privilège, hein, ce Pierre, Jacques et Jean, durant ce moment, durant cette contemplation de Jésus complètement transfiguré. Cependant, on constate bien que pratiquement, durant la Passion, ils ont tous abandonné Jésus. Alors on peut se dire, finalement, est-ce qu'ils ont reçu cette grâce ou non? Ça ne sert à rien, quoi. Parce qu'ils n'ont pas tenu, en fait. Bon, sauf peut-être Jean qui, lui, est resté jusqu'à la fin, au pied de la croix. Alors, pourquoi Jésus a voulu être transfiguré, se laisser, transfiguré? C'est une expérience personnelle qu'il a dû vivre lui-même. Il en avait besoin lui-même, en tant qu'homme. Lui, il était conscient de sa mission. Il avait déjà reçu aussi une mission de la part de son Père, le jour de son baptême. Et voilà que maintenant, la même voix des cieux se refait entendre. Se fait entendre de nouveau, comme une sorte de confirmation pour lui, comme une sorte, on dirait aujourd'hui, d'effusion de l'Esprit-Saint, un renouvellement profond de son cœur. Et alors, cette expérience de Jésus, mystérieuse évidemment, elle est en même temps toute simple. Chaque fois quand il va sur une montagne, c'est pour prier, hein. C'est aussi pour prêcher, mais c'est surtout pour rencontrer son Père. Donc Jésus était là, il a l'habitude de prendre des témoins avec lui. D'ailleurs, ils étaient combien, hein? Combien de personnes ont vu Jésus transfiguré? 3. Et vous avez oublié 2, Moïse et Élie. Alors l'un ou l'autre qui sera encore plus attentif va dire, oui, mais enfin, le Père était là aussi. Alors, on ne parle pas de l'Esprit, en tant que, on peut lui donner un nom, mais cette lumière, c'était déjà la présence de l'Esprit. Donc, en fait, il y a plusieurs personnes. Oui. Mais ce que je voulais vous proposer, c'est d'imaginer Jésus en train de s'entretenir avec Moïse et Élie. Qu'est-ce qu'ils parlaient avec eux? Qu'est-ce qu'ils se disaient les uns aux autres? Bon, on sait que Moïse, c'est le symbole de toute la loi, tous les patriarches. Hein. Et puis aussi Élie, le symbole de tous les prophètes. La loi et les prophètes. Sûrement, Jésus était en train d'accueillir d'une manière nouvelle toute cette loi, toute cette volonté de Dieu, tout ce désir de son Père qui a été déjà donné à son peuple, qui avait nourri ce peuple pendant l'Ancien Testament, hein, on dit aujourd'hui. Puis en même temps, accueillir aussi tout l'enseignement des prophètes pour se rendre compte à quel point cette parole de Dieu peut être vécue pratiquement, et qu'on a besoin de revenir et de la rappeler tout le temps, en fait. Les prophètes ont fait ça. Ils ont rappelé comment on peut mettre en pratique cette parole de Dieu donnée une fois pour toutes, et comment on peut l'appliquer à chaque époque de l'histoire. Et Jésus était en train donc d'accueillir cela, de recevoir de nouveau donc sa mission. Et puis en sens inverse, sûrement, il était en train de leur dire, hé les gars, Moïse, Élie, c'est moi que vous avez attendu. C'est moi le Messie. Hein. Donc votre espérance n'a pas été vaine. Toute cette foi que Abraham et ses descendants ont voulu vivre, ben voilà, n'a pas été vaine. D'ailleurs, à un autre endroit, Jésus dit, Abraham a vu mon jour. Et bien voilà, il était sûrement en train de dire à Moïse, voilà, tu parlais de moi, hein. La parole de Dieu, c'est moi. Et pour les prophètes, de même, hein. Il a dû dire à Élie, ben voilà, tu annonçais ma venue. Et vous tous les prophètes qui avaient essayé de réconforter ce peuple, de raviver chaque fois son attente, eh bien, c'est de moi que vous avez parlé. C'est moi le Messie. C'est moi le Sauveur attendu. Quelle joie pour Moïse et Élie. Et donc, du coup, pour tous les justes de l'Ancien Testament, on peut dire. Et en sens inverse, enfin, de l'autre côté, les trois disciples qui étaient là aussi, en train de s'émerveiller, et d'ailleurs ils avaient peur de regarder ce qui se passait, eh bien eux, ils étaient à leur tour les témoins de la nouvelle alliance, du Nouveau Testament maintenant. Ils étaient en train de regarder ce que Jésus était en train de vivre. Ils ont entendu aussi cette voix, ce témoignage, cette fois-ci, qui descend directement du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Eux-mêmes, ils étaient en train de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Ce Jésus qu'ils étaient en train de suivre, ben, ce n'était pas seulement un maître, un rabbi quelconque. C'était vraiment, oui, ce Messie attendu, cet élu de Dieu, son propre fils. Et en fait, dans tout ce contexte ici, on voit bien comment Jésus qui est au centre, qui vit cette expérience personnellement, eh bien, il veut aussi la partager, évidemment. Mais avant de tirer des leçons pour nous-mêmes, voilà, essayons de voir ce cœur de Jésus se réjouir profondément de cette intimité avec son Père, de cette puissance intérieure qu'il est en train de recevoir, cette force de pouvoir affronter, évidemment, la passion et pouvoir aller donner sa vie jusqu'au bout. Peut-être les jours qui viennent méditer sur cela, l'expérience intérieure de Jésus en tant qu'homme, évidemment, parce que comme fils de Dieu, il avait déjà reçu l'Esprit, il avait déjà reçu toute la joie de son Père, mais en tant qu'homme, il en avait besoin maintenant, voilà. Alors, comme un renouvellement profond de son cœur. Et puis s'il faut maintenant retenir quelque chose pour nous, eh bien, nous ne pouvons pas monter sur la même montagne que Pierre, Jacques et Jean, mais nous pouvons nous tourner vers l'autel où à chaque Eucharistie a lieu aussi une transfiguration. En fait, tous les mystères de la vie du Seigneur se renouvellent à la messe. Alors, durant ce temps de carême, ce texte est donné, comme les autres paroles de Dieu, pour accompagner les catéchumènes, hein, ceux qui se préparent à recevoir le baptême. Mais nous, qui sommes déjà baptisés, eh bien, nous sommes invités à vivre nous-mêmes aussi, justement, ce renouvellement profond de la grâce reçue à notre propre baptême, comme Jésus. Et nous, là, nous allons le faire, bien sûr, d'une manière solennelle, la vigile pascale, enfin, la nuit de Pâques, quoi. Mais déjà, dans chaque Eucharistie, eh bien, nous pouvons être ces témoins de ce même Jésus qui est là, qui se donne à nous sur l'autel. Qu'est-ce que nous voyons? En fait, nous ne voyons pas grand-chose, parce que c'est une petite hostie de rien du tout. Mais les yeux de notre cœur, les yeux de la foi, eh bien, peuvent nous aider à accueillir une révélation beaucoup plus profonde. Celui qui est là, et vraiment Jésus ressuscité. Et Marguerite Marie a eu la joie de voir aussi, hein, de manière même physique, hein, cette lumière, hein, telle qu'elle est présentée un peu sous la fresque ici, par exemple. Hein, ces flammes qui jaillissaient de tous côtés de son humanité sacrée, dit-elle. Eh bien, on peut lui demander à Marguerite Marie de nous aider à accueillir nous-mêmes aussi cette révélation, mais bien sûr à notre propre manière, qui en fait n'est pas seulement une vision intérieure, c'est un renouvellement profond de notre cœur à chaque Eucharistie, quand Jésus vient voilà, nous prendre avec lui, là, se donner à nous d'ailleurs, entrer en communion profonde avec nous, pour nous communiquer la même lumière, la même joie qui habite son cœur, le même amour qu'il a animé toute sa vie. Du coup, l'Eucharistie que nous vivons ne peut pas être la même à chaque messe. Même si on a l'habitude, voilà, on fait le même geste, ou parfois il faut changer de geste, ça dépend du contexte, mais c'est le même Jésus qui se donne à nous, tout en voulant renouveler chaque fois notre cœur, profondément. Alors dans cette Eucharistie, tout simplement, voilà, je vais vous proposer de nous approcher de la communion comme si c'était la première fois. D'autres diraient comme si c'était la dernière. Enfin, j'espère que ce n'est pas la dernière pour personne. Mais vous voyez, on est là pour accueillir toujours une grâce qui nous dépasse, qui nous surprend. Et c'est la parole de Saint Paul qui peut nous éclairer là-dessus. Cette grâce, nous pouvons la recevoir à chaque messe comme un don absolument gratuit, parce qu'elle nous est donnée par Jésus. Elle nous est donnée, nous la recevons. Nous ne mettons pas la main dessus, tout en communion, à la main. On ne met pas la main sur Dieu, quoi. Et donc, tout simplement faisons cet acte renouvelé, profond, de foi, dans cette humanité glorifiée de Jésus, dans son corps qui se donne maintenant à nous, ce corps qui est le corps même de Dieu. Préparons-nous quelques instants afin de le recevoir avec un cœur plein de joie, plein de joie. Si on a envie de rester encore ici, on ne va pas faire des tentes, mais notre propre corps deviendra comme une tente, comme une habitation, une demeure de ce corps de Jésus qui veut rester avec nous. Et c'est lui qui nous accompagne justement encore sur ce chemin de carême vers la fête de notre Pâques.